Bonjour le monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous sur VOA Afrique depuis Washington DC. Bienvenue dans cette édition du mercredi 3 avril 2024 dont voici d'abord les principaux titres. Au Sénégal, le président Diomaye Faye nomme le premier ministre Ousmane Sonko, figure clé de son élection. En Guinée, l'opposition et la société civile exigent le retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre. Au Gabon, ouverture du dialogue national sous l'égide des militaires et la présence du président centrafricain.
J'appelle chacun au dépassement de soi pour s'inscrire dans une logique d'inclusion afin que ce dialogue serve de fondement à un processus de réconciliation véritable.
En RDC, 10 morts dans une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF. En Afrique du Sud, exclu des élections, l'ex-président Jacob Zuma fait appel. 12 morts et 30 blessés dans une attaque d'Onron dans l'est du Soudan. Joe Biden réclame la paix et la stabilité autour de Taïwan dans sa conversation avec Xi Jinping. Les Palestiniens relancent la procédure pour devenir État membre de l'ONU. Ne manque pas notre page sport. Ainsi que la Minute Éco, pour l'instant, le journal. Au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé hier soir au poste de Premier ministre Ousmane Sonko, promettant changement systémique, souveraineté et apaisement en devenant le 5e président du Sénégal. Lionel Runanira Gahima.
Monsieur Ousmane Sonko est nommé Premier ministre, indique un décret lu par le secrétaire général de la présidence de la République sur la télévision publique RTS. Figure clé de la victoire, Sonko a exprimé sa gratitude pour la confiance placée en lui. Je mesure l'importance de la confiance que le président Faye a placée en ma personne, a déclaré sur la RTS Monsieur Sonko, âgé de 49 ans. Il a annoncé la formation dans les prochaines heures d'un nouveau gouvernement. Les priorités incluent la baisse du coût de la vie et la lutte contre la corruption. Le défi principal pour le régime Faye sera de répondre aux attentes en matière d'emploi dans un pays où le chômage est élevé et où de nombreux jeunes cherchent des opportunités à l'étranger. Monsieur Faye, jamais élu auparavant, devient le plus jeune président du Sénégal depuis l'indépendance en 1960, moins de 3 semaines après être sorti de prison. Il insiste aussi sur la nécessité d'un pays d'espérance et de réconciliation. Le Sénégal, sous mon magistère, sera un pays d'espérance, un pays apaisé par une justice indépendante et une démocratie renforcée, a-t-il dit.
Les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile en Guinée exigent le rétablissement du calendrier visant un retour des civils au pouvoir avant le 31 décembre 2024. Davantage avec Alexandrine Rolognon.
Regroupés en collectif Force Vive de Guinée, ces partis d'opposition et organisations de la société civile condamne la décision des militaires au pouvoir de ne pas organiser l'élection présidentielle en décembre 2024, conformément à l'accord conclu avec la CEDEAO en octobre 2022. Dans un communiqué, elle dénonce l'absence de projet de constitution et de code électoral après plus de 2 ans de transition. Le collectif accuse la junte de restreindre la liberté publique et de harcèlement à l'encontre des leaders politiques et appelle au retour à l'ordre constitutionnel avant le 31 décembre. Ajoutant qu'il ne reconnaîtra plus les militaires au pouvoir passé ce délai. Outre ces revendications, ces organisations exigent la mise en place d'un organisme de gestion électorale indépendant et consensuel, le toilettage et la soumission à référendum de l'ancienne constitution de 2010, ainsi que la révision du code électoral. Le Premier ministre avait suggéré mi-mars que les militaires devraient rester à la tête du pays au moins jusqu'en 2025. À cela, les organisations répondent que la prolongation de la transition, sans aucune concertation avec les acteurs sociopolitiques, compromet tout dialogue avec la junte.
En RDC, au moins 10 civils ont été tués lors d'une nouvelle attaque attribuée aux rebelles ADF. Cette attaque a été menée hier en plein jour contre une localité du Nord Kivu dans l'est du pays, selon des sources locales. Yakuba Ouedraogo.
D'après Emmanuel Katembo Salamu, maire du Mandjina, les ADF ont fait une incursion dans Mangodomu, dans le territoire de Beni, visiblement pour se ravitailler en médicaments et nourriture. En plus des personnes tuées, Il ajoute que les assaillants ont incendié un pavillon du centre de santé, pillé des boutiques et brûlé des maisons. Le capitaine Anthony Mwalushayi, porte-parole de l'armée dans la région, a souligné que les forces armées de RDC ont neutralisé 4 terroristes et libéré 4 jeunes filles qui avaient été kidnappées. L'intervention de l'armée est arrivée un peu en retard. Nos militaires ici à Mandina n'ont même pas un véhicule pour leurs interventions, a regretté Nikes Kasereka, président du Parlement des jeunes de la commune. Les ADF, forces démocratiques alliées à l'origine des rebelles ougandais, majoritairement musulmans, sont implantés depuis le milieu des années 1990 dans l'est de la RDC, où ils ont tué des milliers de civils. Ils sont aussi accusés de récentes attaques sur le sol ougandais.
Le Rwanda commémore à partir de dimanche le génocide des Tutsis, 100 jours d'horreur dont l'ombre plane toujours sur le pays. Malgré un inlassable travail de réconciliation, les célébrations officielles débuteront le 7 avril, jour des premières tueries de ce qui deviendra le dernier génocide du 21e siècle. Le président Paul Kagame allumera une flamme du souvenir au mémorial de Gisozi à Kigali. En Afrique du Sud, l'ex-président Jacob Zuma a fait appel mardi de son exclusion des élections générales prévues fin mai, relançant le débat sur son éligibilité à moins de 2 mois du scrutin qui s'annonce tendu. Jean-Roger Bion.
Jacob Zuma n'a pas été inculpé pénalement et n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale, a fait valoir Umkhonto Wesizwe, MK, la nouvelle formation dont se réclame l'ancien président, dans son recours déposé auprès de la Cour électorale. Ce parti remet également en cause l'impartialité de la Commission électorale, estimant que l'affaire qui a valu la prison à M. Zuma est une procédure civile. Jacob Zuma, 81 ans, ancien pilier du Congrès national africain ANC, avait créé la surprise en décembre en annonçant soutenir le petit mouvement radical. Mais la semaine dernière, la commission électorale a invalidé la candidature de l'ancien président. Elle n'a pas clairement expliqué les motifs, déclarant seulement avoir reçu une objection qui a été retenue. Les élections s'annoncent tendues pour l'ANC, en perte de vitesse en raison de multiples scandales et de son incapacité à relever une économie en panne. Les Sud-Africains voteront le 29 mai pour renouveler leur parlement, qui choisira le prochain président.
Une attaque de drone a fait au moins 12 morts et 30 blessés mardi à Atbara, ville jusqu'ici épargnée par la guerre sanglante qui ravage le Soudan. Depuis près d'un an, ont rapporté une source médicale et des témoins.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président des États-Unis, Joe Biden, et son homologue chinois Xi Jinping se sont parlé au téléphone hier mardi, signalant leur volonté de maintenir le dialogue malgré les tensions toujours très fortes entre les deux superpuissances, qu'il s'agisse de Taïwan ou de leur rivalité technologique. Dili Diko.
Pour cette reprise de contact depuis leur rencontre au sommet en novembre dernier en Californie, le président chinois et le président américain ont eu un échange de vues franc et approfondi sur les relations sino-américaines, a indiqué la chaîne de télévision CCTV. La secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen et le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rendront séparément en Chine dans les prochains jours et semaines afin de poursuivre le dialogue selon la Maison-Blanche. Au sujet de Taïwan, Joe Biden a réclamé la paix et la stabilité autour de l'île qui va investir un nouveau président. Il a appelé au respect du droit de la navigation dans la mer de Chine méridionale. Il a appelé au respect du droit de navigation dans la mer de Chine méridionale après de récents incidents impliquant les Philippines. La question de Taïwan est la première ligne rouge infranchissable dans les relations sino-américaines, a indiqué l'agence de presse chinoise rapportant les propos de Xi Jinping. Autre sujet de friction, les exportations vers la Chine de certaines technologies de pointe américaines. Par ailleurs, Joe Biden a redit à Xi Jinping son inquiétude à propos de TikTok, réseau social dont la maison mère est chinoise, selon un porte-parole de la Maison-Blanche.
Les Palestiniens observateurs à l'ONU depuis 2012 ont officiellement relancé mardi la procédure pour devenir État membre à part entière, selon une lettre de leur ambassadeur à l'ONU. La mort lundi dans une frappe de l'armée israélienne de ces travailleurs humanitaires de l'ONG américaine World Central Kitchen, qui livrait de la nourriture dans la bande de Gaza, menacée de famine, a suscité de vives réactions, notamment en Occident. Le président américain Joe Biden s'est dit mardi indigné et estimé qu'Israël ne protège pas assez les volontaires intervenant en aide à la population palestinienne affamée. Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Dans votre actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco présentée ce matin par Alexandrine Rolognon.
Joe Biden n'entend pas lever les restrictions aux exportations technologiques vers la Chine. Le président américain a dit mardi à son homologue chinois Xi Jinping qu'il continuerait à prendre les décisions nécessaires pour empêcher les technologies américaines de pointe d'être utilisées de manière à compromettre la sécurité nationale des États-Unis, selon un communiqué de la Maison-Blanche. Les deux chefs d'État ont eu cet échange pour gérer les tensions entre les deux superpuissances. Les ventes du constructeur automobile américain Tesla chutent de près de 9% en début d'année en raison de l'intensification de la concurrence et du ralentissement de la demande de véhicules électriques. L'entreprise a déclaré avoir livré 386 810 véhicules de janvier à mars, soit près de 9% de moins que les 423 000 véhicules vendus au cours du même trimestre de l'année dernière. Google accepte de supprimer des milliards d'enregistrements contenant des informations personnelles recueillies auprès de plus de 136 millions de personnes aux États-Unis qui surfent sur Internet à l'aide de son navigateur Chrome. Cette décision s'inscrit dans le cadre du règlement d'un procès accusant le géant de la recherche de surveillance illégale. Bien que Google ne verse aucune somme d'argent aux consommateurs dans le cadre de cette affaire, les estimations présentées dans les documents judiciaires évaluent la valeur des contrôles de confidentialité entre 4,75 milliards et 7,8 milliards de dollars.
Yacouba Ouédraogo est avec nous dans votre page des sports. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Marc Emrys est le nouveau sélectionneur du Cameroun.
Oui, l'annonce a été faite sur la chaîne nationale, la CRTV. Marc Emrys va être assisté par François Oman Biyik, Achou Besson, Alioum Bouka et Germain Noël Essengué. Le technicien belge a principalement entraîné en Belgique, où il a été aux commandes de Germinal Berchot, Mouscron, Malines Saint-Tron et Louvain jusqu'en octobre dernier. Il a aussi fait un tour aux Pays-Bas avec le FC Eindhoven, FC Den Bosch et en Arabie Saoudite avec Al Faisali, Al Raïd et Najran SC. Marc Emrys, 61, a succédé ainsi à Rigobert Song, dont le contrat n'a pas été renouvelé après une CAN ratée avec une élimination en huitième de finale.
Toujours en football, Yacouba, Brighton se félicite d'un profit record pour 2022-2023.
Le club anglais du virevoltant ivoirien Simon Adingra a annoncé un bénéfice après impôt d'environ 143,4 millions d'euros pour la saison 2022-2023, sa meilleure sportivement et financièrement parlant. Brighton, remonté en 2017 dans l'élite anglaise, a réalisé sa saison la plus aboutie en terminant à la sixième place du championnat, ce qui lui a permis d'accéder à une Ligue Europa pour la première fois de son histoire. Les Seagulls, entraînés par l'Italien Roberto De Zerbi, ont aussi atteint la demi-finale de la Coupe d'Angleterre l'an passé, de quoi gonfler encore leurs revenus. Les finances de Brighton ont bénéficié des transferts du Malien Yves Bissouma à Tottenham, entre autres.
Boxe pour terminer, le tribunal arbitral du sport rejette l'appel de l'IBA qui voulait organiser le tournoi olympique.
La Fédération internationale de boxe souhaitait se voir restituer l'organisation du tournoi olympique après avoir été exclue en juin dernier du CIO pour mauvaise gouvernance, demande rejetée en appel par le tribunal arbitral du sport. L'IBA, l'International Boxing Association, n'a pas amélioré sa transparence financière, soutient le TAS pour justifier sa décision, ajoutant que l'instance fêtière du Noble A n'a pas changé ses processus visant à assurer l'intégrité des arbitres et des juges. En juin 2023, au terme de 4 ans de conflit, le Comité international olympique a officiellement banni l'IBA de son giron, lui reprochant notamment des problèmes de gouvernance, des scandales d'arbitrage à répétition ou encore sa dépendance financière persistante du géant russe Gazprom. En conséquence, l'IBA a perdu définitivement l'organisation des tournois olympiques de boxe et la manne financière qui l'accompagne.
La page des sports, signée Yacouba Ouédraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manilakidza de retour avec vous pour aborder les dossiers du jour. Bassirou Diomaye-Faye a été formellement investi dans ses fonctions en tant que nouveau président du Sénégal lors d'une cérémonie qui s'est déroulée hier mardi en présence de nombreux chefs d'État et de centaines de partisans. La correspondance de Wahani Johnson Sampou à Dakar.
C'est dans une salle pleine comme un œuf que Bassirou Diomaye-Faye a été intronisé. Des centaines de ses partisans ont rallié dès les premières heures de la matinée le Centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio dans la périphérie de Dakar. Aucun ne voulait manquer ce moment spécial.
Une journée exceptionnelle, on l'avait rêvé, c'est réalisé. Je pense que ça a été un long combat. Et aujourd'hui, je pense que tous ceux qui sont de PASTEF, mais au-delà, tout le peuple sénégalais, et content parce qu'il fallait faire ce changement. Et je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu ce changement.
Aujourd'hui, c'est le jour de délivrance, franchement, parce que le combat a été difficile, comme vous l'avez dit. Le combat était également long, mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a vécu un moment inoubliable, un moment dont, dans l'avenir, on va expliquer ça à nos enfants, à nos petits-enfants également, avec fierté.
Et c'est dans une ambiance festive et face à des supporters surexcités que le tout nouveau président du Sénégal a prêté serment. Bassirou Diomaye-Faye dit être conscient que les résultats sortis des urnes expriment un désir profond de changement systémique. Le président sénégalais promet de fait une autre manière de gouverner.
Je mobiliserai les Sénégalais d'ici et de la diaspora autour d'un projet national fédérateur et orienté vers le futur serein. Je m'engage par la promotion du culte du travail, de l'éthique dans la gestion, de la discipline et de l'amour de la patrie.
Bassirou Diomaye-Faye a également réitéré son assurance aux partenaires du Sénégal et sa demande à un partenariat plus équitable. Plusieurs chefs d'État de la sous-région, dont ceux de la Guinée, de la Guinée-Bissau, du Ghana ou encore de la Mauritanie, ont assisté à cette cérémonie. Bassirou Diomaye-Faye s'est ensuite rendu au palais présidentiel pour la passation de service avec Macky Sall. Wahani Johnson Sambou, Dakar, pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
Au Gabon, ouverture hier mardi du dialogue national inclusif tel que promis par les militaires au pouvoir. La présence du président centrafricain Faustin Archange Touadéra a agrémenté cette concertation qui va durer un mois, permettant aux Gabonais d'échanger sans réserve sur le fonctionnement de leurs institutions et sur les enjeux socio-économiques de leur pays. Les précisions de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangnze.
Devant des milliers de Gabonais, les diplomates étrangers et le président centrafricain Faustin Archange Touadéra, par ailleurs facilitateur de la transition gabonaise, le président du dialogue national Jean-Patrick Ibaba a lancé les travaux de cette grand-messe avec l'espoir qu'elle transcende les clivages.
Pour cette raison, j'appelle chacun au dépassement de soi pour s'inscrire dans une logique d'inclusion afin que ce dialogue serve de fondement à un processus de réconciliation véritable.
Le président de la transition souhaite un dialogue avec des échanges sans tabou sur des sujets d'intérêt national. Brice Clotaire-Oligingema promet de traduire en acte de loi les conclusions de cette concertation.
Sur l'esprit consensuel et le sens des responsabilités qui doivent habiter chacun de nous. Pour que les travaux débutent sur la victoire du Gabon.
Jugé sur ses déclarations d'intention, le discours du président de la transition et chef de l'État gabonais convainc une des figures de proue de la société civile gabonaise, Nikèze Moulombi.
Mais ce qui me marque dans le discours du président de la transition, c'est cette capacité à réunir les Gabonais. C'est cette capacité à dire aux Gabonais, oui, nous avons perdu des frères et des sœurs. Oui, il faut repartir vers le passé, mais cela ne doit pas être un sujet de blocage, avançons. Et ça, c'est important. Et là-dessus, nous avons fait une retraite où nous avons nous-mêmes dit que ce qui est important pour nous, c'est d'acter cela.
Avant ce dialogue, le Gabon a organisé une série de rencontres similaires sous l'ancien régime sans résultat réel. Les plus sceptiques pensent qu'il s'agit d'une rencontre de trop. Non, pense Georges Bruno Ngoussi, pasteur d'une église de réveil.
Mais la spécificité de ce dialogue actuel, c'est la présence, c'est son inclusivité, la présence de la société civile, la présence des églises, la présence pratiquement de toutes les couches sociales de notre pays, d'une part. Et d'autre part, il y a la volonté politique.
Les travaux du dialogue se poursuivent dans leur phase scientifique. Les experts réunis en commission vont débattre des contributions sur le plan institutionnel, politique, économique et social. Un absent de taille à ce dialogue, Ali Bongo Ondimba, le président déchu, est toujours en résidence surveillée. Ismaël Obionze pour VOA Afrique, Libreville.
Judith Suminwa Tuluka est devenue la toute première femme Premier ministre de l'histoire de la RDC. Le président Félix Tshisekedi a rendu publique sa nomination lundi soir au terme des consultations ayant déterminé la majorité parlementaire après les élections de décembre dernier. Avant cette nomination, Madame Tuluka occupait le poste de ministre du Plan. Pour en savoir plus sur sa carrière et ses qualifications, Eddy Sango a joint à Kinshasa le coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC, Christian Moleka.
C'est une technocrate qui a beaucoup évolué dans l'ombre. C'est vrai qu'elle vient de la diaspora congolaise de Belgique, qu'elle a commencé à travailler dans les banques, puis dans les systèmes des Nations Unies. Elle a rejoint le cabinet de l'ancien vice-premier ministre du budget, Mokoko Samba, sous le gouvernement Tata entre 2012 et 2014. Puis elle a rejoint l'équipe du président Félix, où elle a été coordonnateur adjoint de la cellule de veille stratégique CVS. Après la formation du gouvernement Samba Lukonde II, elle a rejoint le ministère de Plan, où elle a œuvré jusqu'à ce qu'elle soit récemment dénommée premier ministre.
Quels sont les défis qui l'attendent? On sait que la RDC fait face à une guerre dans sa partie est et pas seulement cette guerre-là, beaucoup de conflits armés.
Les défis sont énormes. Moi, je crois qu'il y a deux sortes de défis. Il y a d'abord les défis de son leadership au sein de l'action gouvernementale. Elle vient de nommer le Premier ministre. On connaît les poids des partis politiques au Congo et donc des chefs des partis. Le défi énorme pour elle, c'est d'abord comment elle va gérer, elle va manœuvrer, cohabiter avec les grands chefs des partis politiques, si tant est qu'elle sera au gouvernement. Ensuite, comment elle va manœuvrer un parlement dont elle n'est pas chef de majorité, comment elle va cohabiter avec cette majorité-là, et puis peut-être un petit défi avec le président de la République qui est hyper actif et qui a en quelque sorte fait de l'ombrage au premier sortant. Comment elle va s'affranchir de cette hyperactivité du président? Après, il y a le défi social. C'est que d'un point de vue de priorité, il y a énormément de priorités sur la table. Priorité sécuritaire, priorité économique, pouvoir d'achat, dédollarisation, priorité sociale en termes d'accès à l'emploi pour les gens, des développements de l'économie, énormément de priorités et qui attendent des résultats presque dans l'immédiateté. On sort d'une campagne où les demandes sociales sont pressantes et malheureusement, elle n'aura pas assez de temps de grâce pour bénéficier d'un temps de repos.
Elle est une femme. Peut-on penser qu'elle pourra faire quelque chose devant la guerre et tous ces conflits-là?
Moi, je ne mettrai pas vraiment en avant le fait qu'elle soit femme parce que les compétences n'ont pas de sexe. Et tout dépendra de sa stratégie pour répondre à ces questions-là en collaboration avec le président, de l'équipe qu'elle va constituer autour d'elle et de la maîtrise des dossiers que ces gens apporteront à ces côté. C'est cela qui fera qu'elle puisse, oui ou non, apporter les réponses aux préoccupations à la fois économiques et sociales. Et après, en tant que femme, c'est vrai, elle a peut-être une sensibilité sur les questions sécuritaires qui lui sera propre. Encore faut-il que le président lui donne assez d'espace, parce qu'on a vu son prédécesseur avoir un peu moins d'espace sur les questions sécuritaires notamment.
La RDC est parmi les pays où les violences sexuelles sont régulières. Que peut-on dire avec sa nomination? Est-ce que le Congo a fait quelques pas de l'avant dans le combat pour l'égalité des genres?
C'est une victoire. C'est une vraie victoire symbolique d'avoir une femme première ministre, pas seulement le Congo, l'Afrique, parce qu'à ce jour, nous sommes le quatrième pays africain à l'avoir fait, après le Gabon, le Togo, la Namibie. Le Congo est le quatrième pays à l'avoir fait. Elle est la première, donc c'est une avancée énorme. Dans le passé, on a eu des femmes à la tête de l'Assemblée nationale, on a eu des femmes à la tête de la Banque centrale, on a des femmes ministres. Depuis 1966, on a une première femme ministre, mais c'était pour les conditions féminines. Petit à petit, des femmes ont gravi les échelons pour prendre les compétences techniques, notamment les ministères comme les mines, les affaires étrangères. Mais là, on a une femme chef de gouvernement. Je crois que, comme on dit aux États-Unis, c'est un plafond de verre qu'on vient de briser et qui peut-être redonne aux femmes beaucoup d'espoir. On est dans un pays où les violences liées à la femme sont nombreuses et pour beaucoup de femmes, c'est peut-être aussi un soulagement, un moment d'espoir de voir qu'une femme est portée à ce niveau face à toutes les tribulations qu'elles connaissent.
Christian Moleka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Alors que l'OTAN marque son 75e anniversaire cette semaine, les perspectives sur l'Alliance et le rôle de l'Amérique dans la sécurité européenne divergent entre les candidats à la présidence des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. Scott Stearns, correspondant de la VOA, nous en dit plus. Le récit est de Jean-Roger Bion.
75 ans après sa création, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord reste l'engagement le plus direct des États-Unis en matière de sécurité européenne, mise en place après la Seconde Guerre mondiale. À l'origine, l'OTAN réunissait les États-Unis et 11 pays européens qui s'engageaient à se porter mutuellement secours en cas d'agression de l'un d'entre eux. Harry Truman, alors président des États-Unis.
S'il y a quelque chose de certain aujourd'hui, s'il y a quelque chose d'inévitable dans l'avenir, c'est la volonté des peuples du monde pour la liberté et la paix.
L'invasion de l'Ukraine par la Russie, la réponse de l'OTAN et la lumière que cela jette sur le rôle de l'Amérique dans la sécurité européenne séparent les candidats à la présidence des États-Unis, Joe Biden et Donald Trump. Lorsqu'il était président, M. Trump a déclaré aux dirigeants de l'OTAN qu'ils ne payaient pas assez pour leur propre protection.
Ceux qui en profitent le moins sont les États-Unis. C'est nous qui en profitons le moins. Nous aidons l'Europe. L'Europe s'unit et s'oppose à un ennemi commun qui peut être ou non un ennemi. Je ne peux pas vous le dire. Il y a aussi d'autres ennemis.
L'OTAN s'est agrandie après le départ de l'administration Trump. La Suède et la Finlande ont rejoint l'Alliance au cours de l'année écoulée, ce qui constitue sa plus grande expansion depuis que la chute de l'Union soviétique a permis aux pays d'Europe de l'Est d'adhérer à l'OTAN. Le président Joe Biden estime pour sa part que le fait de s'opposer ensemble à l'agression russe montre que l'OTAN fonctionne.
Avant le début de la guerre, j'ai dit à Poutine que si l'on envahissait l'Ukraine, l'OTAN deviendrait non seulement plus forte, mais aussi plus unie. Et nous verrions les démocraties du monde se lever pour s'opposer à son agression et défendre l'ordre fondé sur les règles. C'est exactement ce que nous voyons aujourd'hui.
En tant que président, Donald Trump a donné la priorité aux relations avec la Russie et Vladimir Poutine. Lors de sa campagne pour un second mandat, il s'est souvenu d'un dirigeant de l'OTAN qui l'interrogeait sur les menaces russes.
L'un des présidents d'un grand pays s'est levé et a dit, « Eh bien, monsieur, si nous ne payons pas et que nous sommes attaqués par la Russie, nous protégerez-vous ? » J'ai répondu, « Vous n'avez pas payé ? Vous n'avez pas payé ? » Il m'a répondu, « Oui, admettons que cela se produise. Non, je ne vous protégerai pas. En fait, je les encouragerai à faire ce qu'ils veulent. »
M. Biden estime que cette approche de la sécurité européenne est dangereuse pour l'Amérique.
Un ancien président républicain dit à Poutine, « Faites ce que vous voulez, c'est une citation. » Un ancien président a vraiment dit cela en s'inclinant devant un dirigeant russe. Je pense que c'est scandaleux, c'est dangereux et c'est inacceptable.
Donald Trump a déclaré à la chaîne de télévision conservatrice britannique GB News qu'il soutiendrait l'OTAN si chacun payait sa juste part. Joe Biden affirme que l'OTAN est plus forte et plus unie que jamais et qu'elle est au cœur des objectifs de politique étrangère de sa campagne de réélection.
Le Monde d'aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Eric Manilakiza sous micro, Lionel Nanilagahima sur la production et la réalisation, Natchwan Kale à la console. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur votre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes et à la prochaine.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur V.